Moi, j'ai une question. Parce que en vous écoutant, je me disais que c'était quand même intéressant parce que le ministre de l'Intérieur afghan, qui s'appelle Haqqani, est en fait le chef du Kopakani. C'est le fils. Oui. Donc ça veut dire que c'est le chef d'une tribu des Northwest Territories qui se trouve au Pakistan. C'est-à-dire qu'il n'est pas plus afghan que ça. C'est un Pakistanais en réalité. Il n'est peut-être pas très pakistanais, mais en tout cas, il n'est pas afghan.
Il est en fait, en effet, la tribu Zadran, qui, comme beaucoup de tribus dans cette région, en fait, en fait, qui sont de part et d'autre, hein, les frontières entre la région de Khost et le Waziristan voisin, à vrai dire, les frontières, ils ne les connaissent pas. Donc, c'est en effet très difficile. Les Haqqani sont aussi chez eux, j'ai envie de dire, à Islamabad qu'à Kaboul, voire même peut-être plus à Islamabad. Sirajuddin ne doit pas connaître Kaboul et connaît très bien Islamabad. C'est pour vous dire qu'en fait, le côté transnational du mouvement, c'est ce qui le différencie surtout
Oui.
du groupe que j'avais mentionné, les talibans historiques, qui eux sont réellement des Afghans, contrairement à la nouvelle génération qui, eux, sont presque aussi pakistanais qu'afghans.
J'ai aussi une autre question après, excusez-moi, qui est que, je ne sais pas au point de vue chiffre, mais la présence des Afghans au Pakistan, et notamment à Karachi et au Baloutchistan, est très forte. Alors, moi, j'avais même noté à un moment qu'on disait que la population afghane, enfin pashtoun, à Karachi avait été majoritaire. Est-ce que c'est possible? Et au Baloutchistan aussi.
Je pense que c'est exagéré, mais c'est vrai que le Baloutchistan, extrêmement semi-désertique, l'afflux de population afghane a forcément renversé les équilibres démographiques. Je ne connais pas les chiffres, à vrai dire. Mais pour ce qui est de Karachi, en effet, c'est un melting pot de tout le Pakistan. On y retrouve des muhadjirs, c'est-à-dire les populations qui ont quitté l'Inde pour venir en Pakistan. Vous avez beaucoup d'Afghans, beaucoup de Pachtounes pakistanais qui n'ont pas de lien avec l'Afghanistan. Vous avez les Sindhis, donc ceux de la région à l'intérieur des terres, comme vous voyez là autour de Hyderabad. Donc, bon, à vrai dire, je crois que Karachi, c'est comme l'Afghanistan. Je pense que tout ce qui est dit en tant que chiffres et statistiques, il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Mais c'est vrai qu'il y a une très forte population et aussi des trafics qui sont menés par ces mafias qui se livrent des guerres pour le contrôle du trafic de drogue, de stupéfiants, mais aussi de toutes sortes, étant donné. Karachi étant la plaque tournante du Pakistan, des trafics en tout genre.
Pardon, excusez-moi.
Je propose qu'on passe d'abord à la salle pour
Oui, bien
poser les
sûr.
questions. Je vais essayer de récupérer des questions sur l'Internet. J'ai proposé à nos auditeurs par Zoom, hein, de commencer à poser leurs questions par écrit. Je me ferai le porte-parole des questions qui arriveront hein, sur ce web média.
Merci pour cet exposé très intéressant. Moi, j'aimerais savoir ce qu'on peut attendre des négociations en Norvège. Est-ce que ça soutient la France? Est-ce que véritablement, il y a une véritable négociation? On essaie simplement d'avoir une passerelle humanitaire. Vous avez très bien dit que la plupart des dirigeants actuels étaient un petit terroriste en majorité, donc c'était quand même un gouvernement qui s'en souffre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, on négocie avec eux. Donc il y a quand même un paradoxe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Je vais répondre brièvement afin de vous laisser, parce que je pense que je ne suis pas le seul à vouloir ou à pouvoir répondre. À Oslo, mais je pense que il y a eu d'autres réunions. Là, on en parle beaucoup plus parce que c'est en Occident, il y en a eu d'autres dans d'autres pays. ça a été clairement dit, il n'y a pas de reconnaissance. La rencontre ne vaut pas reconnaissance du gouvernement actuel. Les exigences qui ont été émises, la communauté internationale continue à les faire valoir. Le problème, c'est que le gouvernement Taleb prend en otage la population en disant, écoutez, il faut une exemption ou enlevez-nous des listes de terroristes afin que vous puissiez délivrer de l'aide à la population qui en a vraiment besoin. Mais en fait, on sait très bien que le risque est très grand que le gouvernement utilise cette aide internationale, la détourne dans un premier temps, il n'y a aucune garantie qui est accordée afin qu'elle ne soit pas, et il y a aussi le risque que celle-ci soit utilisée à des fins politiques par le gouvernement. Mais l'objectif est d'un accord ou une entente technique afin que justement cette aide, le flot de l'aide puisse recontinuer et puisse irriguer tous les coins de quadriller le pays. Parce que, comme je vous l'ai dit, en ces périodes hivernales suivant une sécheresse sans précédent, la population en a extrêmement besoin.
Je suis entièrement d'accord, mais je voulais juste préciser que c'est très dans les mœurs du pays de toute façon. C'est-à-dire que les talibans ne sont pas idiots. Ils se disent ils sont intéressés à créer une passerelle humanitaire, à faire rentrer de l'argent pour aider la population. Peut-être qu'ils se précipiteront sur l'argent, c'est même très probable. Mais il y a en tout cas une chose qu'ils essaient d'obtenir en contrepartie, c'est la levée des interdictions de voyager qui pèsent sur eux, puisqu'ils sont recherchés pour terrorisme international. Et ça, ça ne m'a pas surpris quand j'ai vu ce truc apparaître, parce que c'est typique. Ah, vous voulez aider nos compatriotes? Eh bien, très bien, aidez-nous aussi, parce que nous, on aimerait bien voyager. On a besoin que nos gens aillent dans le Golfe, puissent voyager. Et bon, ça va prendre du temps. Alors, pendant ce temps-là, l'hiver est là, il est là depuis déjà longtemps. Et les gens crèvent de froid et de faim. Donc, pas très facile. Enfin, c'est très difficile de faire comprendre à un public occidental que sous un prétexte qu'ils ne comprennent pas très bien, on laisse les gens crever de faim. C'est comme ça que ça sera traduit dans la presse.
C'est une question d'un internaute qui s'interroge sur le jeu que mène la Chine.
Je peux répondre. La Chine a une présence dans toute la région. Et qui a un double objectif, c'est très clair. Le premier, c'est un objectif économique. Ça, c'est vraiment le plus important. Ils sont, par exemple, propriétaires d'une immense, la plus grande du monde, dit-on, mine de cuivre au milieu du pays, pas très loin de Kaboul, d'ailleurs. Et évidemment, ils auraient intérêt à l'exploiter. Mais pour l'exploiter, il faut construire une ligne de chemin de fer qui permet de transporter le cuivre quelque part, en tout cas, à un endroit où il peut être exploité, soit à Karachi, soit directement en Chine. Donc, c'est un immense projet. Et deuxièmement, il y a énormément de terres rares en Afghanistan. Et évidemment, les Chinois, comme vous le savez, sont assez intéressés, mais il n'y a pas que par les terres rares. Et troisièmement, il y a une chose qui est moins connue, il y a beaucoup d'autres sources. Il y a probablement des réserves pétrolières très importantes. Parce qu'en fait, on est dans le prolongement des réserves de pétrole de l'Ouzbékistan et du Turkménistan. On ne sait pas très bien, parce que tant qu'on n'a pas fait de sondage, on ne sait pas. Donc, il y a un intérêt chinois qui est très économique. Puis, il y a un intérêt politique. De toute façon, tout ce qui est mauvais pour les Américains est bon pour eux, en gros, et dans cette région du monde. Ils sont en compétition avec les Russes, hein. Parce que dans l'Asie centrale, c'est un territoire russe et les Chinois et les Russes sont en compétition très forte pour avoir une présence dans cette région.
Les Russes ne sont pas disqualifiés?
Pas du tout. Au contraire, les Russes ont été les premiers à annoncer qu'ils gardaient ouverte leur ambassade et ils sont très présents. Alors, je sais pas, ils ne sont pas du tout détestés par les Afghans, c'est très curieux.
Alors, au Pakistan, les objectifs de la Chine sont stratégiques et économiques. la Chine ne fait pas de politique intérieure pakistanaise. Ce qui compte, c'est que puisse être réalisé ce corridor qui relierait l'océan Indien, le port de Gwadar à Kashgar et au Xinjiang. Et ce corridor, c'est un chemin de fer, une autoroute, un oléoduc. Et tout ça passe par le Baloutchistan. Et régulièrement, il y a des attentats, des techniciens chinois ont été assassinés à Gwadar par un parti terroriste baloutche. Et puis, au fur et à mesure que l'oléoduc sera construit, au fur et à mesure, il y aura des attentats contre l'oléoduc. Donc ça, c'est un véritable défi. Et donc, les Pakistanais, voilà la main de l'Inde dans sa rivalité, dans la rivalité Inde-Chine, vous voyez ? Voilà.
Est-ce que les talibans, réputés musulmans rigoureux, ont lancé la guerre contre la drogue au risque de s'aliéner les paysans ? Seconde question, est-ce que le gouvernement d'Islamabad a pu prendre la main plus rigoureusement sur les zones tribales, toute cette zone qui longe la frontière afghane ?
Non.
C'est clair.
Oui, enfin, c'est vraiment. On appelle ça à tort une zone de non-droit. C'est une zone dans laquelle, depuis la colonisation britannique, le droit fédéral ne s'applique pas. Mais il y a un droit coutumier, pachtoun, qui est assez sophistiqué. Qui s'applique. Mais au fond, dans ces régions, dans ces agences, comme on dit, ces agences de la frontière, même si elles ont été récemment intégrées à la province du Pakistan qui s'appelle le Khyber Pakhtunkhwa, eh bien, l'État pakistanais est très peu présent. Qui est présent ? L'armée, quand il faut y aller pour nettoyer une poche de talibans pakistanais. L'armée a perdu beaucoup d'hommes dans cette zone frontière. Et l'ISI, évidemment, qui connaît par cœur les mollahs et les malics de toutes ces différentes agences et qui peut faire de la politique locale, qui peut interférer dans cette politique, qui est une politique transfrontière, comme on l'a expliqué.
Bon. Une question sur l'Internet.
Oui, bon, c'est les talibans, comme d'ailleurs tous les autres groupes insurgés, se sont nourris d'extorsions auprès de la population, et les producteurs et narcotrafiquants n'échappaient pas à ces extorsions. Donc, ils étaient très contents de ne pas complètement tarir cette source. Il faut savoir que les talibans, avant d'arriver au pouvoir, on estimait que leur budget était environ $1 milliard de dollars par an. Ce n'est pas en extorquant les producteurs de tomates qu'ils se faisaient cet argent, c'est justement en se nourrissant du trafic de drogue. Et donc, on peut imaginer qu'aujourd'hui, privés de sources de financement international, ils risquent de à nouveau revenir à cette manne qui est la principale manne, étant donné que c'est le premier produit d'exportation du pays et de production du pays. Oui, comme en fait, l'État islamique, par exemple, on le sait très clairement que eux, c'est le trafic de stupéfiants qui est la principale source de leurs revenus. Pour les talibans, c'est un peu plus diversifié, mais on peut imaginer que la majorité, plus de 50%, provient en effet du trafic de drogue, de manière directe ou indirecte.
Par quel canal continue à passer par les stands au sud ou on ne sait pas où circule ce problème
de... Ben, si les les prises en mer de l'océan Indien sont un indicateur. En effet, c'est vraiment par la mer qu'ils circulent avec des nouvelles voies qui descendent sur qui traversent le Baloutchistan et qui nourrissent donc les mouvements séparatistes qui eux-mêmes, chacun se prend sa part et ensuite descend dans la mer d'Arabie. Parfois va nourrir les circuits, l'État islamique, par exemple, au Mozambique, qui sévit dans le nord de le Mozambique, au Cabo Delgado, et aussi prend sa part des réseaux qui ensuite remontent, des routes qui remontent ensuite pour regagner l'Europe. Donc, en fait, vous voyez que cet arc d'instabilité est financé en fait par cette drogue qui, en partie, prend sa source en Afghanistan.
Juste sur ce point, rajouter que traditionnellement également, les exportations passent directement sur les marchés connexes, qui sont des gros consommateurs, et notamment en Iran, où il y a un problème de drogue très très sérieux, qui vient essentiellement des exportations d'héroïne à partir de l'Afghanistan, et en Russie. C'est pour ça que les Russes sont extraordinairement attentifs à ce qui se passe en Afghanistan, parce que alors, pour eux, c'est un problème majeur. Parce que ça passe au travers de l'Asie centrale, ça atteint la Russie, et de là, ça se répand en Russie, et éventuellement, c'est réexporté.
On peut penser que les Becs chercheront à un moment donné, c'est peut-être compliqué, mais à avoir une influence.
Pas exclu du pouvoir. Enfin, les talibans sont des nationalistes pashtuns, donc ils n'aiment pas trop partager le pouvoir avec les autres, mais ils ont quand même un minimum de vertu, et au moins ils parlent déjà une langue commune, enfin, pas le pashtun, mais le dari, et ils ont d'autres choses en commun, donc ça va. Avec les ouzbeks, ça j'en doute fortement. Je pense que vraiment, les Ouzbeks et les talibans, c'est la guerre à mort.
Qu'est-ce qu'ils font assez de part négligeable ? C'est quand même
environ 15% de la population. Ça fait quand même une partie importante de la population.
J'ai vu que l'Afghanistan, c'était 500 vallées différentes. Dans chaque vallée, des petits chefs, des juges islamiques, des juges qui gèrent leur région, des chefs de vallée, des chefs de région. Qu'est-ce qui permet de rééquilibrer ce pays? Extrêmement compliqué. Est-ce que c'est la pression des Chinois, des Russes? Est-ce que le Pakistan a peut-être un petit peu déstabilisé ce pays, puisque les talibans, c'est une création par les Saoudites, des Américains, le secret pakistanais? Ça, c'est ce qui est à l'époque. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, va permettre de stabiliser cet Afghanistan?
Je voudrais juste répondre à votre question sur le premier point, en tout cas, qui est que la tradition de l'Afghanistan est une tradition extrêmement décentralisée pour les raisons que vous souleviez. Le gouvernement précédent, tel qu'il avait été mis en place et qu'il fonctionnait, avait mis en place des gouverneurs et il avait une politique qui n'était pas totalement idiote, justement, sur ce sujet, où ils avaient essayé pas d'éliminer, mais de circonscrire ces petits chefs en mettant en place des systèmes d'élection, en répartissant les familles de manière inégale dans des groupes différents, de manière à ce que la collectivité soit représentée, pas uniquement par les gens qui tenaient le pouvoir. Mais de toute façon, toutes les études qui ont été menées, de façon très sérieuse, par exemple en Capissa, quand on était là-bas, montraient que derrière le pouvoir apparent, il y a toujours un pouvoir secret, qui est réellement celui qui gouverne la région, enfin la région, le bled, la vallée, si vous voulez. C'est pas par vallée, c'est par bout de vallée. Et puis c'est les vallées qui montent sur les côtés de la vallée principale.
C'est très compliqué. Très, très compliqué.
Le problème, c'est que, par exemple, les Américains sont arrivés dans ce pays d'une complexité folle. Et une complexité folle, moi je connais un peu le Pakistan, une complexité folle. Et voilà, ça ne peut pas marcher. Quoi. Il faut comprendre tout ça. C'est ce que dit l'armée française dans les années. On a essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Là, je ne sais pas si on l'a fait. Malgré les psychologues, malgré les Américains, après, ont compris que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Mais bon, c'est complexe.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Il y a d'autres questions ? Parce que...
J'ai une dernière question venant de l'Internet, parlant de l'Iran. On en a parlé dans vos exposés. Et là, la question est un peu plus précise en s'interrogeant sur le fait de savoir si l'Iran soutiendra les Hazaras en cas de violence contre les chiites.
Alors, c'est évident que l'Iran est présente en Afghanistan et que son principal intérêt, c'est le soutien de la minorité chiite et notamment il n'y a pas que les Hazaras hein, dans les chiites. Il y a aussi des chiites pashtuns, curieusement. Mais enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et les chiites tadjiks. Mais enfin, la majorité, c'est effectivement les Hazaras. Bon, qu'ils soient là pour veiller à leurs intérêts, essayer de les défendre, etc. Ce sera difficile avec les talibans. Je pense que c'est un exercice. Enfin, je ne sais pas si vous avez une opinion sur le sujet.
Bon, je pense qu'en effet, il y a cette solidarité chiite et... Téhéran se targue d'être un peu le défenseur des chiites sur notre planète. Néanmoins, je pense que le principal souci de Téhéran aujourd'hui, c'est éviter un afflux trop grand de réfugiés afghans. Elle en accueille déjà quelques millions. Je pense que le principal objectif, c'est justement d'empêcher que la situation se dégrade davantage et que, dans ce cas-là, il y ait un nouvel afflux de réfugiés.